grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique.
On est-tu là, là?
Oui.
On est là, là? C'est la première semaine de course. Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast L'Épingle! On est très heureux, Jean-Max. Merci. Fallait bien que tu chantes de quoi pour commencer l'épisode.
Hey, tu sais que je me pratique depuis déjà des mois.
Ouais.
Pris des cours de chant, tout.
C'est vrai, hein?
Ouais.
T'as le temps de faire ça avec un nouveau bébé, d'ailleurs?
Non, tout ça, c'est tout des mensonges.
Merci à tout le monde d'être là. C'est un épisode avant la saison, notre épisode pré-saison. Il y a eu les tests pré-saison d'ailleurs à Bahreïn à la fin du mois de février. Notre chum Fred a regardé ça. On va parler de télémétrie, tout ça, nos prédictions, mais surtout, étant donné qu'on va faire en prévision de ce qui s'en vient, notamment en Australie cette fin de semaine, on va répondre à vos questions. On a ouvert le sac de questions, la foire aux questions, les pit stops de questions. Pour vous autres, puis il y en a plusieurs qui sont arrivés, puis des questions qui sont très intéressantes aussi. Notamment, il n'y en a pas pantoute qui nous demandent des prédictions pour la saison. T'sais, c'est sûr qu'il n'y a personne qui nous demande ça, puis on n'allait pas en faire non plus, hein, les gars, c'était sûr et certain. Jean-Max, tu vas bien?
Très bien, les gars. Écoute, on commence la saison de l'épingle. 24 Grands Prix qui s'en viennent, c'est excitant. Drive to Survive, ça nous met en bouche, c'est juste trop malade, ça va être la dernière saison des règlements actuels, ça risque d'être absolument épique encore une fois.
Et Fred?
Ça va bien aussi. Puis pour ajouter à ce que Jean-Max vient de dire, 5 courses en 6 semaines, les gars. On va être ici. C'est beau divan, pas mal.
Ça passe les chapeaux de roue, puis après ça, oups, là, on a un petit break. Puis c'est ça que je déplore de la saison de Formule 1.
C'est parce qu'il faut partir de Mexico pour aller à Abu Dhabi.
C'est comme un 5 services. Tu sais?
Mais ça prend du temps, là, voyager.
Mise en bouche, quand même, là, par
contre. 5 à 6, c'est malade.
Ouais. L'entrée, puis après ça, t'attends, puis là, ça recommence. Mais Australie, Chine, back-à-back, 2. Puis après ça, on s'en va au Moyen-Orient. On a, bien sûr, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. On s'en va à Bahreïn aussi. Et
ça se même poursuit. Le Japon après la Chine, quelque chose comme ça, me semble.
Japon aussi, début avril. Ouais. Ça va être un très, très beau 5 semaines. Messieurs, les tests pré-saison. Puis là, vous voyez, j'ai respecté ma promesse, ma parole. J'ai déjà mon T-shirt de Ferrari que j'ai pu acheter dans mes vacances annuelles. Il y avait un magasin plus moche. Je disais, on va arrêter de voir ce qui se passe, voir s'il y a les nouvelles casquettes. Finalement, il y avait les nouveaux T-shirts qui étaient disponibles nulle part. Et j'ai pu mettre la main sur ça. Les casquettes vont arriver à la fin avril avec le numéro 44. D'ailleurs, sold out en 15 minutes.
Qu'est-ce
que vous pensez? Première question.
Je taquine, Greg. Faut que je l'écœure un peu.
On commence ça, là. On parlait de mise en bouche. On commence ça soft. Là.
Soft.
Vous pensez quoi des designs des 10 différentes voitures qui vont avoir sur... c'est-à-dire les 10 différents designs des 20 voitures qui vont avoir cette saison?
La RB blanche.
Exact.
Approved.
Racing Bull a été cœurante en blanc.
La V-Carb.
La V-Carb, Cash App, Red Bull. On dit Racing Bull. V-Carb, Cash App.
On va dire
Racing Bull.
Red Bull 2.
Non.
On a fait des tests. Là.
C'est Horner
qui a dit ça quelque part. On a fait des tests avec Racing Bulls. On va voir ce qui se passe. Puis on va peut-être appliquer ça. Ah oui, voilà un avantage distinctif. Enfin bref, elle est magnifique. Voyons voir maintenant ce que le duo de pilotes va pouvoir faire. On dirait qu'il n'y a pas un pilote qui est plus anonyme depuis le début de cette saison 2025 que Isaac Hadjar.
On n'en parle pas tant.
C'est vrai.
Du tout.
Mais on parle juste de Ferrari, qu'est-ce qu'il va donner. Lewis Hamilton qui vient d'arriver. McLaren sont encore forts. Ça parle beaucoup de Russell et Mercedes, Verstappen et Red Bull. On parle moins des écuries comme Sauber qui va être encore pourri. Racing Bull.
Elle est
on
encore
en parle...
très belle, la Sauber. Hein?
Oui, elle
faut qu'elle soit belle parce qu'elle est lente, puis ça n'a pas de bon sens. Comment
ben pour finir là-dessus, premièrement, je trouve que la Ferrari, j'aime le rouge.
Le rouge plus cerise.
Plus cerise, Bourgogne, rouge vin. Mais la ligne blanche qui met en valeur le gros HP bleu.
Le gros HP qu'on peut voir. Ici.
Écoute, ils ont dû payer cher en tabarouette pour qu'on voit HP autant.
Ils ont payé cher. Tu vois, dans toutes les entrevues maintenant, même quand on retranscrit ce que les pilotes disent, t'sais, Lewis a fait combien d'entrevues? Ah, c'est tellement un plaisir de conduire une Scuderia Ferrari HP. Oh oui, c'est sûr qu'il n'y a pas dit ça dans l'entrevue.
Ils ont dit ça. Elle était plus belle l'an passé, je trouve, avec une petite ligne jaune de plus, un rouge vif, mais bon.
Moi, je préfère Ouais. Ça me dérange pas, la ligne blanche.
Non.
J'avais pas aimé l'itération où est-ce qu'il y avait du vert dessus, là, avec le Monster. Ça, j'avais pas aimé ça, mais le blanc, je trouve que ça reste très classe. Moi, j'aime beaucoup. Je sais, c'est controversé, là, mais c'est mon opinion.
Et
la Alpine...
est vraiment plus belle.
Je l'aime beaucoup.
Je suis d'accord.
Ça fait partie, du sport, ça. En as-tu une favorite, toi aussi?
J'aimais bien la RB, puis sinon...
Je trouve ça plate que la Red Bull...
La McLaren est quand même pas mal non plus, là. J'aime bien le orange, ouais. C'est quand même striking. Ouais. Puis,
moi, j'haïs l'orange, ça l'est au bout. Mais je suis un peu
pour
déçu.
Pour capter la blague, regardez-nous sur YouTube pour voir que les bas et le coton ouaté de notre ami Jean-Max sont en orange. Ah ouais.
Tout est pensé.
En l'honneur de McLaren ou?
Non. De Max.
Ah oui.
Le tannant. Ouais. Pas fin. Méchant.
On le dépeint comme pas tant méchant dans Drive to Survive, hein?
Mais non, mais c'est parce qu'il. En tout cas, il n'est pas si méchant que ça. Il est juste. Il a la mentalité de écoute, moi, je suis ici pour gagner, man. Je commencerai pas à faire comme. Ah, oh, ben vas-y, passe. Je sais qu'il y en a qui ont plus de classe.
Pourquoi je sens qu'on va se pogner?
On a eu les mêmes conversations.
On est déjà sur cette
Lewis a gagné en restant respectueux. Oui, Max, non, c'est un fait. Pensons au moment présent et le futur.
Le moment présent, hein?
Le futur.
Drive to Survive cette année, qui ont fait un petit changement, je trouve. Intéressant. Ils ont ramené ça plutôt à la formule, la première itération qui avait connu le succès. On a essayé de reproduire Drive to Survive autant comme autant là, dans le tennis, dans le golf. Ça a fait des tis, notamment au hockey, qui ne sont pas sur Netflix, mais sur Amazon Prime également. Et Drive to Survive, pour moi, va toujours rester. Malgré que c'est assez fort, là, la série qu'ils ont fait sur Amazon avec les séries éliminatoires, c'est très, très bon. Mais Drive to Survive, de par la nature du sport et tout le drama qui se passe sans cesse en Formule 1, va toujours rester Drive to Survive. À peu d'exceptions près, j'adore ce qu'on a fait cette saison.
C'est trop bon.
C'est vraiment très bien fait. Tout le monde, tous les fans de Formule 1, même ceux qui ne suivent pas ça tant que ça, s'attendaient à ce que ça commence avec deux choses. Lewis Hamilton qui s'en va chez Ferrari et l'affaire Christian Horner. Ah, oui. C'est exactement ce qu'on nous sert dans le premier épisode. Que j'ai dévoré. Je le regarderai encore et encore et encore.
Juste pour haïr Christian Horner. Greg se lève la nuit, puis il fait comme Christian, Christian. Comme Gollum un peu, tu sais, genre là. Christian, Christian.
Si vous voulez haïr Christian Horner, Netflix font tout en leur pouvoir pour le faire passer pour le méchant, comme ça n'a pas de bon sens.
Peut-être ça que Max paraît un petit peu mieux après. Ils sont acharnés un peu plus sur Horner.
Oui, mais ils font toujours passer pour le pire et ça marche parce que c'est bon. Il y en a beaucoup qui aiment l'haïr. Puis à chaque fois, ils vont mettre une petite phrase qui va dire « Zach Brown is a prick ». Il chie sur Charles Leclerc. Il piétine l'autre. Il dit que l'autre est pourri. Tu sais, il est comme jamais gentil.
Hey, l'aimes-tu pas, Zach Brown?
Non.
Oh mon Dieu, qu'il le déteste.
Mais Zach Brown, il va « under his skin », comme on dit en anglais. Ouais, là. Ouais. Il réussit à aller chercher Christian, là, puis mais, il fait chier.
Comment... Peut-être que c'est parce que les deux, on est des fans des Kings, là. Mais comment tu veux détester Zach Brown?
Je me suis posé la question.
Il est tellement passionné, content d'être heureux. Ce qu'il a fait avec son équipe, c'est une équipe iconique, là, McLaren, là, qui n'avait pas remporté le championnat des constructeurs depuis 1998. Il les a ramenés là alors qu'il y a 18 mois... Ces deux chars étaient même pas capables de passer en Q2. Je veux dire, comment tu veux haïr ce gars-là? Il est juste tellement content. T'sais, il est plus content que Lando quand Lando va chercher sa première victoire.
Ouais,
et toi, tu détestes... Je veux dire, dans l'histoire de la conférence de presse, là, les journalistes en Formule 1, ils niaisent pas. Là. Ils posent les vraies questions puis il n'y a pas de filtre. C'était sûr qu'il allait avoir des questions sur Christian Horner. J'ai trouvé que la réponse de Zach Brown était quand même intelligente. Là.
Dans le premier épisode, ça, là, son commentaire par rapport à la situation de Horner.
Que la Formule 1 ne veut pas avoir ce type de publicité-là, mais ouais. C'est vrai, là, c'est ça la réalité. Là.
C'est vrai.
Peu importe s'il est coupable ou non, quoi que ce soit. Moi, si j'avais été Christian Horner, j'aurais Ben, tu veux pas apprécier cette réponse-là, mais dire comme, tu sais...
Ça, c'est neutre par rapport
fair
à...
Fair enough, là, okay. Je veux dire, c'est vrai, là. Je veux dire, si ça avait été Toto ou Zach ou n'importe qui d'autre qui aurait été dans cette situation-là, ou Fred Vasseur, par exemple, Christian Horner, disons-le...
Il aurait pris la balle au bon.
...serait le premier à te le garrocher en dessous de l'autobus, ben puis payer le chauffeur de l'autobus pour qu'il recule dessus encore,
ouais, ouais.
Puis qu'il le reprenne, puis qu'il l'affiche en avant de l'autobus après pour qu'on le voit bien comme faut.
Absolument.
Il n'en aurait pas manqué.
Mais ça, je peux pas le défendre, Horner, là-dessus. On connaît pas la vraie histoire, mais il semble qu'il ait fait de quoi qui marche pas pantoute. Là. Fait que c'est normal que tu veux pas qu'un individu, par ses actions, cochonne le sport. Et donc, même si Zach Brown me fatigue parce qu'il est dans l'équipe ennemie, il me fatigue, mais... Il est très passionné, puis t'as absolument raison.
Tu peux pas l'aider.
C'est comme dire, tu sais, Brad Marchand, quand il jouait contre les Bruins, là, pour les Bruins, parce qu'il est rendu avec les Panthers, il nous gossait, là, les fans du Canadien. Mais quand il jouait pour Canada, là, il y a pas trois semaines, là, je l'adorais. Ouais. Fait que, j'admets.
Non, moi, je l'ai pareil.
Merde, du coup. Fait que, c'est ça.
ça reste Brad Marchand pareil.
Fait que, je l'ai, mais j'adore le personnage Zach Brown, il est passionné, c'est vrai, il est même, plus tu vois à quel point il est content.
Cette saison, si McLaren vient qu'à répéter, parce que là, on va y aller avec les prédictions, puisqu'on a vu rapidement, c'est très court, hein, 3 jours de test comme ça, surtout avec la température qu'on a vue, donc c'est excessivement difficile de donner des pronostics sur ce qu'on a vu. Ouais. Chance Fred, t'es là pour nous en donner un peu plus, mais si McLaren vient qu'à répéter, t'aimerais ça, vous aimeriez ça que ce soit Red Bull, j'aimerais ça que ce soit Ferrari, mais si McLaren le fait, je serais pas fâché. Là. Du tout.
Lando Norris mérite un championnat, surtout après l'épisode de Drive to Survive qui s'appelle Frenemies entre Max et Lando.
Comme vous autres, ça?
Oui, aussi, vous deux, ça.
Ah, non, nous autres,
non
on
mais
est juste des...
j'ai eu beaucoup de sympathie
on est juste
pour
des
Lando.
Enemies.
J'ai eu beaucoup de sympathie pour Lando. Je trouvais qu'il. La pitié n'est pas un beau sentiment, mais j'ai eu un peu pitié. Tu sais, il disait, moi,
compassion.
Ouais. J'étais petit, il me faisait un peu écœuré. Max, c'est plus le gars qui est comme ultra agressif. En général, il veut toujours gagner. Fait que j'ai eu beaucoup de sympathie pour Lando. Et bien qu'il se battait contre mon pilote favori et qu'il y a eu la chicane, les moves de Max très douteux, voire inacceptables, j'ai beaucoup de compassion pour Lando. Et s'il gagnait, je serais content pour lui.
Penses-tu que Lando a passé par-dessus ce complexe-là?
Ah oh, oui.
Qui est un complexe qui, là, on le voit encore plus en Drive to Survive.
Il est passé par-dessus en fin de saison quand la pression n'était plus là pour le championnat, justement. Moi, j'ai l'impression, par contre. Là, ça va être intéressant de voir comment il réagit au début de la saison quand ça va être lui qui va être dans la position pour aller prendre le lead tôt. Là.
Ouais.
Il n'y aura pas un rôle de rattrapage de « Ah oh, ouais, peut-être, je pourrais. » Puis même quand il y avait ce rôle-là l'an passé, il s'est mis à... Il a quand même fait des erreurs. Puis là, après, quand ça s'est réglé, puis que Max a gagné le championnat, là, il s'est remis à. Ça va être un meilleur pilote, je pense. Là. Ça va être intéressant de voir, là, parce que ça va être lui qui va être normalement en commande pour commencer la saison.
J'ai trouvé ça intéressant. L'an dernier, Drive to Survive nous aide à mettre certaines choses en perspective aussi. T'sais. Je sais qu'il y a des erreurs dans lesquelles, par exemple, on nomme George Russell comme étant le gagnant du Grand Prix de Belgique, alors qu'il a finalement été disqualifié, puis c'est Lewis qui l'avait remporté. On n'a pas mis ça dans le script. On n'en a pas parlé. On parlait d'autres choses, puis c'était bien trop important d'y aller dans notre narrative comme quoi George Russell était maintenant le leader chez Mercedes. Cela étant dit, je pense qu'il y a certains pilotes qui ont passé, par exemple, la fameuse curse, la malédiction de Charles Leclerc à Monaco.
Quel épisode?
T'sais, qu'il faisait beaucoup d'erreurs, puis tout ça. Il était parfait ce week-end-là. Il n'a pas fait d'erreur. Et il a remporté une course, puis ça l'a aidé pour le restant de sa saison également. Même chose pour Lando, tu sais, qui avait ce fameux poids de dire il n'a jamais gagné de course, il a toujours échappé. Puis surtout, à chaque fois qu'il part en pole, il échappe tout le temps à sa pole, puis il ne gagne pas. Finalement, il l'a fait ça aussi. Puis il a battu Max chez lui également. Donc, est-ce que c'est ça qui va transporter cette saison? Et c'est avec cette narrative-là qu'il va partir.
Ben, à ta question, je réponds. Moi, je pense qu'il a appris beaucoup dans l'adversité. Il a, tu sais, quand il va être contre Max dans un virage prochainement, là, pas sûr qu'il va reculer et que Max va juste passer devant lui ou le couper dans l'apex ou blablabla. Je pense qu'il va tenir son bout maintenant. Maintenant que tout le monde a remarqué que Max jouait avec les règlements, et c'est la chose à faire. Mais là, l'histoire du être en avant à l'apex pour dive bomb en avant de toi, de plonger complètement à haute vitesse en avant de toi, ça, je pense que ça ne pourra plus exister. Là, il va y avoir des pénalités. Et je pense que Lando va passer par-dessus et va prendre sa place. Est-ce que maintenant, il est parfait et est de la trempe des Max, Lewis, Fernando et autres qui font jamais d'erreur ou presque? À voir, parce que comme tu disais, il en faisait encore en fin de saison. Mm-hmm. Mais pour gagner, il va falloir que la McLaren soit la meilleure voiture, puis il va falloir qu'il minimise les erreurs. Là.
Hey, Fernando Alonso, là.
Ah, lui, il a check-out jusqu'à 2026 déjà. Hein?
Ben oui. Y a-tu un pilote, pour vrai, là, ça me fait réfléchir ce que tu dis, là. Fred, tu rebondiras là-dessus. Ouais. Y a-tu un pilote qui a un meilleur branding que Fernando Alonso? Il est rendu comme à 43 ans, puis on le calcule encore comme un des trois meilleurs pilotes sur la grille. Tout le monde, il y a toujours bien comme juste deux championnats du monde. Je sais que c'est beaucoup, mais ça date de 2006, mettons. Et on parle de lui comme étant, là encore, là, il peut sauver une équipe.
Mais il a encore cette réputation-là de pouvoir faire n'importe quoi avec la pire voiture, une des pires voitures.
Ah, mais c'est fou, là.
Non, mais ouais, c'est vrai qu'il est assez
j'aimerais ça
particulier.
Qu'il performe,
c'est
comme ça, avec une bonne voiture, là. Mais il l'a fait comme justement en début de l'année passée, là. Il est arrivé comme troisième, cinquième, jusqu'à temps qu'Aston Martin se tire dans le pied, mais ça serait le fun. Oui, t'as raison.
Certains qu'on fait un sondage, on dit dans la même machine, qui gagne? Là, tu mets Max, Lewis, Fernando. Je serais pas certain que Fernando gagne pas le
moi,
sondage.
Ça serait tellement
non, mais avoue, ouais, c'est vrai. Ça alors que, tant hard. Qu'à moi, il finit troisième, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est la réalité. Je dis pas que c'est un mauvais pilote. Dire, son branding à lui est dans
la
le tapis.
La légende se poursuit.
Ouais.
Oh, ouais, absolument.
Tant qu'il n'y a pas un auto compétitif, on dirait.
Ça, d'ailleurs, ça fait partie des choses qui sont entrées en vigueur pour 2025. Là, c'est un méli-mélo d'affaires qu'on va jaser.
Ouais, ouais.
Puis c'est une des questions qu'on a. Non, on va garder ça pour les questions tantôt. Parce qu'Adrian Newey est rendu chez. Mm-hmm. C'est fait, là. Depuis le 1er mars,
ouais.
Adrian Newey est chez Aston Martin. Et tu dis, Fernando a check-out pour 2025.
Ben, de ses commentaires du testing puis de la performance d'Aston au testing qui était quand même médiocre. Là. Ils ont l'air d'essayer certaines combinaisons. Ils sont arrivés quand même avec beaucoup de nouvelles pièces, des designs quand même un petit peu différents. Puis
sans comme...
mettre nulle part ou à peu près au même endroit que la dernière saison.
8e sur 10.
Je vais juste dire ça, par contre. Regardez où McLaren était il y a 2 ans.
Ouais.
Puis regardez l'investissement que Lawrence Stroll fait de un. Et où est-ce que l'équipe était, puis elle est maintenant. Là. Je pense qu'Aston Martin va être dangereux avant longtemps.
Mais je rebondis là-dessus. Ouais. Vas-y.
Ben, ce qui arrive en ce moment aussi, là, avec les nouvelles règles qui vont arriver en 2026, les règles sont finalisées au niveau aérodynamique là, en ce moment. Fait que il y a une partie de chaque équipe qui travaille sur le concept 2026 en ce moment qui ne travaille pas à améliorer la voiture de cette année. Alors que là, il faut penser que les 3 dernières saisons, pendant toute la saison, 100% du workforce travaille sur l'auto actuelle ou la prochaine génération. Fait qu'il y a certains concepts qui sont réservés à l'année suivante. Il y en a d'autres que tu peux amener pendant la saison. Mais là, en ce moment, une équipe comme Aston qui voit qu'il est nulle part déjà, ça ne me surprendrait pas qu'on fasse semi une croix.
Comme Sauber, là.
On envoie tout le monde sur 2026.
Ben oui. Il faut que tu travailles sur 2026. Et je rebondis là-dessus.
Ah ben, quel tracteur à gazon.
Oui, et le ciel semble tomber sur la tête de Aston Martin. J'ai lu récemment que Enrico Cardile, l'ancien directeur technique de Ferrari, qui a été transféré à Aston Martin, et devait entrer en poste en mars 2025. Et là, Ferrari a comme poursuivi Aston Martin parce qu'ils auraient des preuves que Enrique Cardile aurait commencé à travailler avant pour Aston Martin. Donc, s'ils ont gain de cause, il arrive juste en juillet 2025. Mmh. Et ça, c'est 5 beaux mois de non-travail sur
c'est
la 2026, justement.
La période
là.
De jardinage obligatoire qui n'a pas été respectée.
Le garden league.
Le gardening.
Le jardinage,
le jardinage.
Fait que,
le jardinage.
Si vous savez pas, vous le prenez ici.
Mmh. Oui, vous l'aurez su ici. Il y a bien des questions en suspens, d'ailleurs. Les gens qui ont traversé dans d'autres écuries, maintenant qui vont commencer à faire leur travail à cet effet-là, à la tête de la FIA également. T'sais, on va aller dans les nouvelles globales un peu. La tête de la FIA, il y a Susie Wolf qui serait en train de faire un push pour tasser Mohamed Bensoulayem de là, qui lui est en train de... Comment je peux dire?
Ben, c'était mis à dos les pilotes.
Ben, pas juste les pilotes maintenant. Les pilotes, les fans.
Ouais.
Il a ramené ça un petit peu dans l'opinion publique en disant, oh, on pourrait ramener les V10.
Ouais.
Là, ça met un sujet que, oui, effectivement, le monde est. Notamment Lewis qui est bien d'accord. Et là, bon, ça change un peu l'opinion. De, mais tu sais, enlever le langage grossier des.
Ben, dire, ça, là. Ben, ça fait garderie en tabarouette.
Avez-vous vu Gordon Ramsay au lancement des voitures?
Non.
Il a passé le micro pour lui demander qu'est-ce qu'il en pensait de ça, puis à peu près deux, trois phrases dans sa réponse, il s'est mis à sacrer puis s'est fait couper le micro live devant tout le monde.
Écœurant. Ouais. Merci, non, Gordon.
C'est ça qui est bon. J'ai regardé justement hier, ben, c'est pas juste ça qui est bon, mais j'ai regardé Drive to Survive, puis là, t'as les mots en F un peu partout, puis ça mêle du punch, ça rend...
Hey, faut-tu...
C'est ça qu'il faut, là.
Mais l'action de Formula One Management, je sais plus c'est quoi le ticker exactement, est passé de 70$ à près de 100$. En même temps,
côté business.
Doit faire une job popé côté business, mais effectivement, je pense qu'on est un. On dirait que chaque fois qu'il y a un. Comment je te dirais ça? On dirait qu'il y a comme un power trip qui vient à devenir président de la FIA, puis chacun des présidents qui ont été là sont comme restés longtemps pour que finalement on les aime pas, ou presque. Là. Je pense notamment à. Max Mosley qui était là, qui était très controversé. Bon, c'était Jean Todt qui était là. Je pense que lui, son règne, on l'aimait peut-être moins chez Ferrari parce que c'était la grosse écurie méchante dans ce moment-là avec Michael Schumacher qui dominait. Je pense que son passage à FIA était plus tranquille, si on veut. Mais il me semble qu'à chaque fois qu'on a des présidents comme ça, c'est...
Mais Ben Sulayem, c'est son règne. Il fait pas mal ce qu'il veut. Il met son pied à terre, puis... Il garde, il garde sa ligne directrice, écoute, à voir ce qui va se passer. Mais Suzy Wolf, je serais down. Là. Ça me semble être une personne super intègre.
Elle qui gère présentement F1 Academy. Ouais. Une autre nouvelle qui est tombée dans les derniers jours, Cadillac, officiel maintenant, sont acceptés comme étant, on le savait que ça s'en venait. Mais ça, Fred, tu peux nous en parler parce que en étant accepté officiellement comme la 11e équipe de Formule 1 qui arrive en 2026... Là, je sais qu'on a des questions à cet effet-là, donc on ne tombera pas trop longtemps là-dedans, mais ça change quelque chose pour eux autres qui pouvaient développer leur voiture.
Un peu sans règles, jusqu'à récemment.
À partir d'aujourd'hui, tombent sur les mêmes réglementations que les 10 autres équipes et ne peuvent plus développer à qui mieux.
C'est ça, parce qu'il y a du travail qui s'était déjà fait en amont au niveau technique depuis pratiquement 2 ans, je pense, là, à Silverstone, qu'il y avait un bureau Andretti, puis on engageait, puis là, on engage encore plus. Là. Fait que...
Ça va être malade, ça.
Ça va être très intéressant. Cool. Puis
ça, c'est l'an prochain.
Oui, c'est fou.
2026.
Fait que t'as Audi, bang! Cadillac, bang! Ça va fesser, mon gars.
On sait le moteur va venir de où? Pour
Ferrari pour les deux premières années, 2026-27. 2028, c'est un moteur Cadillac qui rentre.
J'ai vu un article, est-ce que c'est un clickbait ou pas, mais Perez et Bottas seraient dans la conversation.
On en reparle, ça fait partie des questions d'ailleurs qu'on a. Et en 2026, un autre changement qu'on va voir arriver, notamment, on le sait, le Grand Prix du Canada va être un petit peu plus tôt dans la cédule parce que dans la cédule, on va avoir quelque chose de... Tu sais, c'est quelque chose que je vous avais déjà parlé sur le podcast, là, que je voulais qu'on aille plus par continent. T'sais, on est en Europe, on reste en Europe, on ne fait plus des allers-retours en Amérique du Nord. On va faire 2 passages en Amérique du Nord. Donc, il va y avoir Miami-Montréal. Donc, Montréal devient plus tôt sur la grille. Après ça, on s'en va en Europe puis on revient plus tard pour faire... Austin, Vegas, Mexique et tout ça. Là. Donc, Montréal va être plus tôt, mais c'est maintenant le Grand Prix d'Espagne s'en va à Madrid, dans un circuit urbain, qui vont appeler le Madring.
Le Madring.
Ça va être malade, ça? J'ai un ami qui habite à Madrid, donc.
Ouais, il y a certaines rumeurs qui courent comme quoi qu'on serait là-bas.
On va demander à la mère de mon enfant si ça lui dérange que... Quand je quitte.
La mère de mon enfant qui est aussi.
Ou que je l'amène.
Ta fiancée.
Bien sûr.
Tu pourrais peut-être l'amener.
Peut-être l'amener. Hein. Peut-être
avec mon fils. Je peux dire que madame va vouloir y aller, certainement, si je m'en vais en Espagne voir un Grand Prix. Elle qui était avec moi en Australie l'an dernier. Et elle qui m'a fait un beau cadeau dans notre dernier voyage parce qu'on est passé dans le coin de Dubaï à Abu Dhabi. Première journée, on s'est loué une voiture puis on est allé visiter le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. C'est complètement débile. Oui, je parle pas juste des yachts qui sont parkés là. C'est débile comme environnement.
Parlant de yachts, l'épisode de Drive to Survive sur Charles Leclerc et Monaco, là.
Des yachts, 70 000 euros.
T'as-tu vu les plans de vue en flanc de montagne, les yachts, 70 000 euros pour se parquer par jour avec ton bateau dans la baie.
Hey, 70 000 tellement jour par jour. Te parquer. Il y en a-tu du monde qui ont de l'argent?
Je rêve d'aller là un jour.
Ceux qui ont un succès économique comme ça, tant mieux pour vous. On est très heureux pour vous. Il n'y a aucune jalousie ici.
Vous pouvez nous inviter.
Mais c'est un petit peu... ouais, c'est ça. Faut juste nous inviter.
Non, mais ça, c'est
là, une petite commandite, là. Mais oui.
Le port en arrière.
Donnez un petit million, là.
Une commandite. On est ouvert. Par la suite, parlons des tests. Là, oui, on a passé une nouvelle. Ouais. Parlons des tests pré-saison maintenant, parce que des gros changements un peu partout. Là, on rappelle, McLaren, en date de la fin de saison, sont la voiture à battre. Max Verstappen est champion du monde pour la quatrième fois de suite. Yes. Et là, on essaie de trouver des indices à gauche, à droite, de voir qui est la voiture la plus rapide. Et ce qu'on va faire avec ça, Fred, tu as des indices
te dire,
de télémétrie.
C'est qui la voiture la plus rapide? C'est McLaren
qui?
Encore.
Ouais, c'est ce que tout le monde
McLaren
dit.
Qui, en simulation de course, en deuxième journée, était à peu près une demi-seconde du tour plus vite que Leclerc et Antonelli pour, au même moment de la journée.
Mais le temps le plus rapide des trois jours.
On revient à Williams quand même.
Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi.
Carlos Sainz, ouais. Qui lui a voulu envoyer un message et a signé le temps le plus rapide de toute la gang.
Mais
ça,
il
c'est
était
quand
en low fuel, là. Bas,
c'est
le litrage,
c'est quand même
descente.
Le fun pour Williams, ouais, là, ouais, de
ouais,
voir
ouais,
que...
Ouais, ouais.
Sur toutes ces données-là, c'est ça qui est dur à tout le temps quantifier. Là. C'est que tu ne sais pas combien il y a de gaz dans la voiture. Tu ne sais pas c'est quoi le mode du moteur. Puis après ça, il y a toutes les différences aussi avec le compound de pneus qui est utilisé. Fait que là, c'est sûr que c'est tout à prendre avec un grain de sel, mais il semblait sortir quand même que McLaren faisait bien. Que Mercedes aussi paraissait à peu près nez à nez avec Ferrari au final, niveau race pace puis aussi sur un tour. Ce qui était dit, par contre, c'est que Mercedes, qui a mieux performé l'an passé sur des circuits où il faisait plus froid.
Toujours ça.
La deuxième journée. C'est ça, il y a eu la troisième journée qui
était
plus proche d'une température normale, mais les premières journées qui étaient plus froides, fait que peut-être que ça a été un peu... ça a un peu aidé la température pour Mercedes. Après ça, Red Bull, qui n'a pas eu du très bon testing, là, qui a essayé apparemment énormément beaucoup de géométries différentes, des ailerons avant différents, des combinaisons de bodywork puis de plancher différents, pour au final pas réussir à donner à Max, ou peut-être juste vers la toute fin, Max a réussi à faire comme quelques tours un peu plus rapides puis dans une zone qui était bon. Mais semble que le problème encore chez Red Bull cette année va être de trouver la fenêtre de performance de la voiture qui semble encore super, super étroite. Là.
Fait que... je ris parce que Helmut Marko... Non, du tout, du tout. Helmut Marko qui, encore une fois, tu sais, il y a des certitudes dans la vie, puis c'est que Helmut Marko va dire ce qu'il veut quand il veut, puis peu importe. On a réglé tous les problèmes, tout est beau, tout est parfait, alors que tout le monde qui a observé Red Bull sont là. Non, pas
Pierre
du tout.
Pierre Vacher qui disait l'opposé, là, qui disait que là, c'était une...
On est déçu.
Une étape... dans bonne direction, mais vraiment pas la quantité.
Alors que la voiture était la quatrième plus rapide à la fin de la saison dernière. Ouais. Et il n'y a jamais eu un championnat du monde des pilotes qui s'est gagné alors que Adrian Newey a quitté une écurie.
Mais ça, c'est. Il y a tellement d'affaires dans ce que vous venez de dire. Là. Je saute là-dessus comme la misère, c'est le pauvre monde. Fait que Pierre Vacher dit on a gagné comme 3-4 dixièmes cet hiver, mais McLaren a juste poursuivi. Il était déçu de certains tests. J'ai lu aussi que Max était comme semi-content qu'il y ait des choses qui ont été réglées, certaines choses.
Max est toujours semi-content.
Mais après...
semi-content
breaking news! Max est semi-content. Et,
simply lovely.
Mais ce qui sort, c'est que Red Bull n'est pas très satisfait. Par contre, j'ai lu tellement d'affaires. J'ai écouté tellement de podcasts. Puis il y a des opinions divergentes. Parce que comme tu le dis, là, c'est trop tough là, de savoir quel... engine mode que tu pourras nous expliquer après, les pneus utilisés, le niveau d'essence dans les voitures. Tu sais, par exemple, 10 kg d'essence de plus, tu perds à peu près 3 dixièmes au tour. Fait que tu peux pas savoir combien.
Il y a eu des... Oui, effectivement. Mais tu sais, il y a eu quelques certitudes. On le sait, McLaren...
Oui, c'est ça. Je m'en allais là. Fait que là, il y en a qui disent McLaren, Ferrari, Mercedes, puis Red Bull 4e.
Ben moi, je mettrais pas Red Bull 4e. Je mettrais Red Bull 4e.
Il y a l'effet Max Verstappen.
L'effet
là-dedans.
Max Verstappen. Puis l'effet, si l'auto est dans bonne zone.
Oui.
C'est comme, il y en a gagné des courses vers la fin de la saison.
Je pense que ça va vraiment dépendre des circuits.
N'a-t-il pas gagné Austin vers la fin? ou quelque chose du genre, là, vers la fin, qui avait super bien roulé.
Ouais, rappelons-nous.
Il y a toujours l'effet Max qui peut s'insérer.
Super bien roulé dans Max, deuxième. Dans Lando encore.
Ben oui, c'est un classique.
Mais
fait que, bref, j'ai hâte de voir.
C'est pas la Alpine qui s'est améliorée de comme 2 secondes et demie au tour par rapport au test.
Mon point là-dessus, là, qui est vraiment intéressant, c'est que là, on parle du test 2025 versus les temps de qualification de 2024. Même circuit à Bahreïn. Williams, qui est presque 9 dixièmes plus vite qu'en qualification l'an passé sur le meilleur tour.
Très fort.
Puis Alpine, qui est 7,5 dixièmes plus vite que leur qualification de 2024. Alors que toutes les autres équipes n'ont pas sorti des meilleurs temps que leur qualification de l'an passé. Au
ça, ça va être intéressant pour la fameuse course dans le milieu de peloton.
On parle d'un Williams-Alpine qui va être serré, probablement RB un petit peu derrière, puis après... Aston Haas, puis...
Haas qui avait surpris dans beaucoup de circuits.
Oui, mais là, en tout cas, en testing, c'était...
Oui, mais il semble qu'ils sont allés pour le long run, en voulant dire, on roule. Il y a tellement de nouveaux employés. Il y a 2 nouveaux pilotes. Ils ont dit, écoute, moi, je m'en fous de savoir combien je vais faire en Australie. Là. Il faut que...
Ils ont doublé leur pitwall.
Il faut...
Haas?
Hein? Ça veut dire quoi, ça?
Il y était 3, ils sont rendus 6.
OK. Ouais. Ben, écoute.
Tant mieux, c'est le fun.
Il y avait beaucoup d'essence pour rouler longtemps. Fait qu'on peut pas se fier là-dessus pour dire qu'ils vont être la 9e écurie. Et tu as raison en disant que Alpine et Williams, selon les opinions, devraient se battre pour 5 et 6. Mm-hmm. Mais là, tout peut changer.
Il y a un point qu'il faut jaser avant de tomber dans les questions de nos auditeurs et des prédictions. Merci pour les résultats comme ça. Et je sais que Fred va pouvoir répondre directement à la question que j'ai posée. La grosse rumeur qui circule partout maintenant, qui est presque un consensus, c'est que Ferrari aurait fait du sandbagging au test. Donc, Lewis Hamilton a fait le deuxième meilleur temps de toutes les... C'est Carlos Sainz qui a eu le premier, Lewis a eu le deuxième. Charles Leclerc a testé longtemps aussi. Lewis a roulé énormément durant surtout les 2 premiers jours. Charles plus le troisième, mais qu'on n'aurait pas montré notre potentiel puis qu'on aurait ralenti volontairement la voiture, peut-être avec, justement, on t'aurait rempli ça au bouchon de carburant.
Le flat tank.
Ouais, flat tank.
Vous pensez quoi de ça?
Vas-y, Fred.
Tu m'as dit que Ferrari était assez agressif dans ses changements aussi cette saison.
C'est ça, là, qui est intéressant. Là, c'est que Ferrari a quand même une évolution... qui est marqué de la voiture, passer d'un pull rod à un... Je ne vais pas dire n'importe quoi, d'un push rod à un pull rod ou d'un pull rod à un push rod.
Là, tu sais que ça va falloir que tu translates tout ça. Là,
de passer d'une suspension qui prend le mouvement puis qui pousse dans le châssis à une suspension où est-ce que ton bras il va tirer dedans en place, ça va être en bas.
OK.
C'est plus dur d'accès, mais il y a certains avantages aérodynamiques, puis aussi...
Ça pousse la voiture plus au sol, right?
Il n'y a pas de lien direct. Tu peux aller chercher exactement le même mouvement kinématique de ta voiture avec un ou avec l'autre. Les changements de suspension en F1 en ce moment, il faut se dire que c'est numéro un pour améliorer l'aérodynamique de la voiture. Puis après ça, le monde de l'aéro envoie ça au monde de la kinématique et leur disent « Essayez de vous arranger avec ça. » Puis il y a une boucle qui se fait pour jusqu'à temps qu'on ait de quoi qui satisfait un peu tout le monde.
Fort intéressant.
Puis Ferrari qui a fait un changement de concept qui est quand même pas petit pour une cinquième année, une quatrième année des mêmes règles. Puis c'est ça qui est passé pour le rod à l'avant, que ça baisse aussi le centre de gravité. Ça, c'est un avantage qui est intéressant, mais plus difficile d'accès pour faire des changements. McLaren avait déjà ça, Red Bull avait déjà ça aussi.
Oui, exact.
Puis McLaren qui est encore plus agressif aussi sur le placement de ses wishbone, qui sont les
commanditaires,
ceux qui sont en V. En haut puis en bas. Puis ça va aussi avec l'attitude de la voiture. Fait que là, tu veux pas que ta voiture a dive trop, a plonge trop dans le virage. Fait que tu mets du anti-dive avec comment tu places tes wishbones.
Et ça a l'air aussi que Charles Leclerc, qui a une technique, certaine technique de
la pédale,
qui l'a appris à Lewis. Et Lewis,
là, j'ai même pas répondu à ta question, par exemple.
Ouais. Est-ce que ça se peut, ça, que Ferrari...
C'est bien possible, quand même.
...fasse du fameux... le terme... J'ai pas de terme francophone là, pour
ça. Sandbagging, c'est que... Ils s'alourdissent ou volontairement cachent leur vraie performance.
Parce qu'on se dit... Et ma sous-question... Qu'est-ce que vous avez pensé également des performances de Lewis dans la voiture? On s'est dit que ça va être long avant qu'il s'adapte et tout ça. Moi, en tant que fan de Lewis, je le vois sourire pour la première fois depuis 2021 dans une voiture. C'est pas juste parce qu'il est en rouge, là. Je veux dire, si c'était dur de s'adapter, il l'aurait dit.
Il a l'air content. Il a l'air vraiment content, en fait. Ouais. Tu vois qu'il dit « Wow, ça va bien, je suis heureux, quel bel environnement, il aime la voiture, tout ça. »
Ferrari a l'air d'être content aussi de ce que lui amène comme retour. Là.
Et là, j'ai lu aussi un peu le contraire.
Faut faire attention à ce qu'on lit. Là, parce les blogs. Là, ça, c'est comme les blogs sur le Canadien. Là, si tu prends l'information, des fois, il y a des gens qui m'appellent. « Ouais, c'est-tu vrai? Où c'est que tu as lu ça? Mm-hmm. Ouais, à telle place. »
Mais c'est une source généralement très bonne. Puis j'ai écouté un podcast aussi. Bref, le but, c'est pas de dire « Ferrari va être poche ». Le but, c'est de dire « Faisons attention ». Et c'est intéressant de lire que, justement, avec cette suspension-là, est-ce qu'ils ont fait des tests, justement, donc ce qui prouve qu'ils ont fait un peu de sandbagging, bon, peut-être, c'est que la voiture a encore du marsouinage, semble-t-il, et que ça ne saute pas parfaitement le style de conduite de Lewis dans ces conditions-là. Est-ce que ce sera en Australie les mêmes composants de la voiture? On ne sait pas. Mais pour cette dite suspension-là...
Tellement de questions.
Ah non, mais c'est ça. C'est
impossible qu'ils rechangent le système de pull rod à push rod pendant l'année. Ça, c'est définitif. Okay, bon, c'est trop un gros changement à faire, probablement.
Et ça vient de l'Italie, des analystes de Ferrari. Oh, ouais, c'est des malades mentales.
C'est un concept qui doit dater de l'été passé.
Si
là.
Vous pensez qu'on a des fans des Canadiens ici en Italie, ça n'a pas de bon sens. Les gens vivent pour ça, puis le soccer. Là. Ça, fait que, tu sais, Lewis, là, freine dernière seconde. Il rentre dans le virage.
Ah, ça, c'est le style Lewis Hamilton.
En malade, puis sort plus large dans le virage en général. Ce qu'il aimait pas de la Mercedes, c'est que au mi-virage, la voiture était pas stable et les roues arrière faisaient un wobble-wobble.
Là, il semble avoir cette stabilité-là.
Ça shakeait. Il semble l'avoir plus là, mais cette suspension-là ne semble pas le sauter parfaitement pour l'instant. Ça vient de l'Italie.
Je trouve ça intéressant qu'à 40 ans, quand il écoute Charles Leclerc et il dit « Voici la technique que j'ai développée. »
Puis c'est quoi cette affaire-là? Je l'ai lu, mais je l'ai pas compris.
Qui garde un peu le gaz en milieu de virage. Là.
C'est ça, je pense.
Puis Leclerc qui a apparemment une technique aussi similaire. Puis j'ai entendu que c'est possiblement par rapport au karting que c'est quelque chose qui reste après. Là, je suis pas pilote puis j'ai jamais conduit une voiture de course.
C'est qu'il lâche pas le gaz quand il break.
Il continue, c'est ça, à garder un peu d'input sur le gaz pour après ça être plus rapide à sortir du virage.
Réaccélérer.
C'est là que ça monte, puis là, ça va être le segment fan de Lewis. Mais.
Il est incroyable.
Non, mais c'est là que je trouve intéressant sa façon d'arriver. T'sais, ça revient à ses commentaires parce que là, il y a Bernie Ecclestone, il y a Brundle, il y a plein de monde qui ont continué de dire dans les dernières semaines « C'est un mauvais choix d'avoir signé un pilote de 39 ans qui en a maintenant 40. Ferrari va le regretter. » On continue de le comparer à tous les autres pilotes. Oh, ouais. Et Bernie Ecclestone également. Là, je ne savais même pas qu'il parlait encore, ce gars-là. Respect à ce qu'il a fait, mais à un moment donné, ça va faire. Là. Et Lewis est sorti dans le magazine Time et a dit « Arrêtez de me comparer à n'importe quel autre pilote parce que je suis pas n'importe quel autre pilote. » Parce que c'est sûr que tu allais dire ça et que les internets allaient s'enflammer. Ouais. Il se prend pas pour un tas de brun, lui-là.
C'est un excellent commentaire.
Je veux dire, c'est vrai. La réalité, c'est que c'est vrai. Et Lewis a pas de femme, a pas d'enfant. Ce qu'il fait, c'est chauffer des Formule 1, piloter. Et il arrive dans une écurie, on dit « Ça va être quoi son attitude? Il va-tu penser qu'il y avait énormément de gens qui disaient ça? T'sais, il va-tu arriver comme le prince qui... Non, il arrive. Charles, qu'est-ce que tu as fait pour avoir du succès avec cette voiture-là? » Et il réinvente sa technique et l'améliore pour essayer d'avoir du succès avec Ferrari. Si vous êtes un fan de course et vous ne saluez pas cette attitude-là, je sais pourquoi vous êtes.
Ben, c'est pas surprenant.
À 40 ans. C'est pas après 7 championnats.
Il est de même. Il est quand même humble. Il rentre là. Il dit je vais parler au pilote que ça fait quoi 6 ans qu'il est là, Charles, à peu près.
Qui a connu énormément de succès avec
cette effectivement aussi. Considérer son opinion, ce qui est la bonne chose à faire. Mm-hmm. Puis Lewis, c'est un ultra studieux. Écoute, je pense qu'ils sont pas mal tous très, très studieux, très têtes sur. Ils travaillent constamment, ces gars-là, à connaître les. Ils s'entraînent, connaître l'opinion de leur mécano et tout ça, tout ça. Puis Lewis est très studieux, évidemment. Là, il partait de zéro avec cette voiture-là. Fait qu'il faut qu'il recommence tout, puis qu'il lise le livre Il lise le livre du char, là. Parce que, bon, comment ça marche? C'est quoi le style de conduite? Tout ça, fait que...
How to build a car, de Adrian Newey.
Que j'ai commencé.
Veux-tu ajouter quelque chose, Fred, avant qu'on tombe?
Bien, sur Lewis, là, puis sur son style de conduite, justement, moi, ce que j'ai entendu puis ce que j'ai lu des médias qui étaient présents là, au test, là, c'est que semblait avoir moins besoin à s'adapter à la Ferrari qui avait besoin de s'adapter à la Mercedes.
Selon son style.
Ce qui le rend heureux qui va lui donner probablement une bonne saison. Fait que,
ouais. Ça a l'air que Mercedes ont continué le développement de la voiture de cette saison par rapport au feedback de Lewis de l'année passée. Tu sais, ce qu'il n'avait pas fait en 2023. Non, Lewis, on sait où est-ce qu'on s'en va. OK, pas de trouble, mais moi, je pense que vous devriez faire ça. On commence à faire ça. Ah, on regagne des courses et on continue avec cette voiture-là alors que le pilote incroyable. Est ailleurs.
C'est, George Russell va gagner au moins une course cette année. Là.
Voulez-vous qu'on fasse un petit segment hot takes avant qu'on réponde aux questions des gens?
Prédictions, là.
Les prédictions, on va les donner parce que c'était certain qu'on allait avoir des gens qui allaient nous demander nos prédictions. Mm-hmm. D'ailleurs, merci à tout le monde. En dedans de 2 heures, là, on a eu assez de questions pour remplir un segment. Avez-vous 1 à 2 prédictions audacieuses pour la saison de Formule 1 qui s'en
audacieuse.
Des prédictions audacieuses. Moi, j'en ai 2. Je vais vous dire tout de suite.
Ouais.
Kimi Antonelli va gagner une course à sa première saison.
Oh.
Oh. Hugo.
Hugo, c'est top.
Je ne sais pas si vous avez entendu le tout sautement de Hugo. Et Pierre Gasly va faire un podium.
OK.
J'en suis certain. Ça, c'est mes 2 prédictions.
J'utilise mon ricochet pour y penser à Fred.
Oh, moi, je m'attends à Carlos Sainz sur le podium au moins une fois avec sa Williams.
Et que j'aime ça.
Peut-être pas en première moitié de saison, mais on semble être sur une très, très bonne trajectoire chez Williams.
Fais donc ça à Montréal qu'on parle à Fred Brosseau encore une fois. Hein.
Carlos Sainz sur le podium à Montréal sera ma première prédiction hot take.
Je vais y aller d'une, puis je vais te laisser penser à ta deuxième. Charles Leclerc gagne le championnat cette année.
J'aime ça!
T'en veux de l'audace? Ça, c'est de l'audace.
Mais pour moi, ça, c'est une autre prédiction que j'ai, mais c'est pas de l'audace. Mais c'est une autre prédiction que je vais donner tantôt. Mais Charles Leclerc, championnat des pilotes, j'adore ça.
Ça serait sick, quand même.
OK, je capoterais.
Je l'aime, Charles.
Donne-moi donc la casquette rouge en haut, le Grand Prix Air Canada.
Ma blonde aussi capote sur Charles. J'ai dit, mon amour,
moi, c'est Carlos Sainz.
Viens écouter l'épisode de Monaco. Elle dit, non, parle. Non, assis-toi,
quand,
là.
Quand je lâche ton sel, l'épisode Carlos Sainz, ma blonde, elle s'est mise à côté de moi. Elle a dit, allô, ça va faire.
Elle dit, je m'en vais dans la chambre.
Elle capote sur Carlos Sainz.
M'en va dans la chambre un petit 15 minutes, je reviens.
Mais non, ça se trouve, ça va là.
As-tu ta deuxième prédiction audacieuse avant que ça s'en aille trop loin, ces histoires-là?
Vas-y, toi.
Ben là, je l'ai déjà donné 2.
Okay. J'en ai pas vraiment de deuxième, honnêtement. Ce que j'aimerais voir, ce qui pourrait peut-être arriver, c'est Piastri qui challenge Norris chez McLaren.
Ouais, je m'en allais là.
Ouais.
J'aime beaucoup Oscar Piastri aussi.
De l'audace, ouais. Je dirais que Piastri va gagner presque autant de courses que Lando.
Tu sais, dans les 5 premières, là, ça serait bien que ça soit donnant, nez à nez après 5 courses. Là. Ouais, ça serait bon, ça.
Ce que j'ai out aussi, c'est que Lewis gagne sa première course avec Ferrari.
Ouais, c'est ça. Ça va sûrement arriver, cette affaire-là, là, on s'entend.
C'est sûr
que ça va arriver à un moment donné. Là. Imagine, il gagne à Silverstone.
Ah!
Oui, ça va gagner Monza.
Imola, quelque chose dans le style.
Ou Montréal.
Ça serait encore plus
Montréal,
débile.
Ça serait complètement exceptionnel parce que c'est
sa première.
Hugo m'enlève.
Il s'en vient
chercher sa première victoire avec Ferrari, là où il a remporté sa première victoire en carrière, dans l'écurie de Gilles Villeneuve.
Oui. Mm-hmm. Oui. Ouais, wow, ça, c'est bon. Mais il n'y a rien qui battrait gagner à Monza.
Ah non, imagine.
Big. Oublie ça.
OK, là. Hey, on est-tu starté ou pas à peu près? OK, êtes-vous prêts pour les questions, guys?
Oui, let's go.
Merci encore une fois. On a mis ça sur nos médias sociaux. On va refaire ça dans la saison. C'est comme une excellente bonne idée. Je ne sais pas qui l'a eu. Je pense que c'est Hugo.
C'est sûr, c'est pas toi.
Ouais, tu sais, il tousse encore. Quand je dis des niaiseries, il tousse. Ça vient de Ellie. Il dit, j'ai plein de questions. La première, rapidement, vous allez répondre par oui ou non. Est-ce que la voiture Red Bull est assez performante pour que Verstappen puisse gagner un autre titre cette saison?
Oui.
Non.
Je pense pas non plus. Autre question, selon vous, est-ce que Piastri pourrait dépasser Norris durant la saison et devenir le pilote numéro 1 chez McLaren?
Est-ce qu'il pourrait?
Moi, je dis oui.
Il pourrait. Oui.
Possiblement, mais je mettrais du genre 20-80. Là.
Je pense que non, mais il pourrait.
So you're telling me there's a chance.
Yes, 20%.
Marco Di Carlo, qui seront les 2 pilotes Cadillac l'année prochaine et qui vont impressionner le plus parmi les recrues cette saison? À la deuxième question, je répondrai Kimi Antonelli, pour moi, sans aucun doute, va impressionner cette saison.
Ouais.
Et qui seront les 2 pilotes Cadillac la saison prochaine? Moi, je pense Bottas
semble un choix quand même. Mais... Ouais.
Si je suis Cadillac, je prends Bottas, Grand Prix winner. Excellent en qualification quand tu lui donnes une voiture. Mm-hmm. Et l'autre, je pense que ce sera un pilote qui vient de l'IndyCar qui peut avoir
probablement quelqu'un d'expérimenté en F1.
C'était Colton Herta, je pense, de qui on parlait, ou Howard. Pat Howard, quelque chose comme ça. Donc, peut-être un des deux.
Ou t'amènes Bottas, ou t'amènes la recrue en feu du moment.
Ouais. Ben, Ferrari qui vont donner le moteur. Fait que peut-être que.
Ou t'amènes Fernando Alonso, Lance Stroll, un des deux qui n'auront plus de volant parce que Max va s'en aller là en 2026. Ça, c'est une autre question. On en reviendra par rapport à ça. Benoît Gravel, qui de Leclerc ou de Lewis finira en avance chez Ferrari cette saison?
Moi, je vais dire Leclerc parce que c'est teinté de fanatisme un peu. Oui, je pense que oui.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que Charles Leclerc...
Cette année. Parce que peut-être qu'il va être meilleur dans les 5 prochaines courses parce qu'il est beaucoup plus habitué à la voiture.
Exactement.
2026,
on va voir. Je
l'ai dit, là. Avant de me mettre ça dans la face, les gens, c'est comment... Je viens de le dire. Leclerc va finir devant de Lewis.
Sortira le tape, Hugo.
Quelle sera la recrue qui va impressionner le plus? On a répondu. Est-ce que Andretti... Et derrière l'écurie Cadillac sans mettre son nom? Oui, absolument. Et est-ce que Williams peut revenir en milieu de peloton avec James Vowles? Hey, on l'aime-tu, James Vowles, après Drive to Survive? Enfin, on lui a donné sa place. Il est-tu parfait? Il était cœur.
Penses-tu?
Ouais, Williams qui est en milieu de peloton après le testing, là, qui est 5 ou 6e en ce moment.
Probablement top 3 des meilleurs duos de pilotes en ce moment, je pense, à Grille.
Mm-hmm. Oui.
Ben, s'ils finissent 5 ou 6e, c'est une réussite
totale. Ils vont être dans le mix.
Oh!
Mais eux aussi, ils se préparent pour 2026, là.
Williams?
Tu sais, Mané, il faut que tu
Williams,
vois...
Je pense qu'on a mis quand même des œufs dans le panier fin de ces régulations-là, un peu, là.
Oui, pour Saints.
Ouais, pour Saints.
D'accord,
ouais.
Mais il faut voir le big picture aussi. Ouais, ouais.
Ça, c'est le meilleur épisode de tous ceux. J'aimais ça parce qu'on était, je trouve, objectif dans la couverture de... On a mis du drama parce qu'il y en avait... C'est James Vowles qui va s'asseoir tout seul puis qui attend. Puis on a la bouteille de champagne. On attend que Carlos Sainz arrive puis il se pointe jamais. Puis on demande à Carlos qu'est-ce qui est arrivé. Flavio called.
Puis là, t'arrives, tu vois Flavio Briatore. Boum, le parrain.
Puis tu vois tout le monde, t'as l'opinion de tout le monde. Puis c'est ce qu'on disait également ici à l'épingle. C'est un petit peu ridicule là, comment Carlos Sainz a étiré ça pendant longtemps pour essayer de maximiser le plus pour tout le reste. Puis. On voit qu'on n'était pas tout seul à penser ça. Les autres pilotes et les autres directeurs d'écurie pensaient ça eux autres avec.
Là, Flavio, il se fait demander pourquoi tu penses que Sainz était là avec Williams. Ben, il dit parce qu'il pense que Williams va être meilleur qu'Alpine dans les prochaines années. Puis là, il dit tout le monde fait des erreurs. Avec ses lunettes fumées, avec ses dents blanches.
Et Claire Williams. J'aime beaucoup la part de Claire Williams d'ailleurs là-dedans.
Mais ça va être, excuse-moi, un narratif à suivre dans les. Ouais. 3 prochaines années, là, qui est devant Williams ou Alpine? Ça va être fascinant, ça aussi.
Ben, Alpine qui était loin aussi.
Oui, fini avec un double podium à la fin de saison. OK, on a été aidés un peu par. Mais c'est ça la Formule 1.
C'est ça la Formule 1.
Est-ce que ce serait arrivé sans Flavio Briatore? On sait pas. Mais là, c'est quoi? C'est Mathieu Binotto maintenant qui dirige cette.
Avec Steak.
Il est avec Steak, c'est ça, c'est vrai. Excuse-moi. Mathieu Tremblay, bonne première les boys, vraiment hâte de vous écouter avant le premier Grand Prix ce week-end. Ben, merci, t'es bien fin, mon Mathieu. Avec la performance de la Red Bull qui semble de moins en moins dominante, est-ce que c'est ce qui fera partir Verstappen de l'écurie? Vous en avez parlé sur le podcast déjà, mais j'ai l'impression qu'avec toutes les controverses de l'année dernière, et si la voiture ne suit plus, ce sera la goutte de trop pour Max. Et s'il part, vous le voyez où en 2026?
Bon.
Je vais juste te laisser développer. Moi, je vais dire oui, Aston Martin. Je te laisse développer pour le reste. Ça, c'est mon opinion, moi.
Ça fait du sens. Puis j'espère que oui, dans le sens où j'espère ou que s'il a changé d'écurie, ce soit Aston Martin, parce que Newey est là, il aura fait un travail incroyable. Bon, c'est pas compliqué.
Veux-tu que je te donne un autre bon point pour Aston Martin aussi?
Oui.
Un excellent
le
bon point.
Moteur Honda. 2026, Honda. Qui est déjà bien établi, qui a déjà bonne réputation des installations, puis du monde avec beaucoup d'expérience, versus un moteur qui est développé en ce moment à Milton Keynes par Red Bull Powertrains, qui a quand même un gros point d'interrogation dessus en ce moment sur la performance, parce que l'équipe a été construite de zéro pour faire ce moteur-là pour 2026.
C'est ça. Fait que, premièrement, Max va s'en aller si la Red Bull est vraiment à poche en 2026. C'est si à...
Il va falloir qu'il prenne sa décision cette année.
Sur du papier.
C'est jusqu'en 2028, son contrat, là.
Ouais.
À tout moment, il peut dire « sorry, not sorry », il s'en va. Là.
Oui.
Même si le contrat est en vigueur.
Surtout avec son ami Helmut.
Il faut que Red Bull soit poche et que les pronostics pour les deux années suivantes ne soient pas bien meilleurs. Et là, il faudra juste voir quelle écurie est en avance et de loin. Mm-hmm. Et là, Newey, comme tu viens de le nommer, a dit récemment, il dit « écoute, je ne serais pas surpris qu'en 2026, dès la première année, on voit une tangente, qu'il y aura une écurie qui va dominer, ou du moins un moteur.
Ouais. »
Il dit « ça va être le moteur. » Fait que si c'est Ferrari, c'est peut que Cadillac soit en feu en partant, mais si c'est Mercedes, ben là, t'as hey, Merce,
Cadillac,
Williams,
ça,
Alpine et
As,
Merce, Williams, Alpine, qui a Mercedes, je pense qu'on est rendu juste à trois. En tout cas, on est rendu juste à trois. Fait que tu sais pas, là. Fait que,
Williams?
C'est ça, je l'ai dit. Fait que c'est pour ça que Sainz...
Mercedes. Non, je fais juste un niaiser.
C'est pour ça que je pense qu'à ce moment-là, Sainz a opté pour Williams parce qu'il s'est dit qu'ils vont avoir un moteur Mercedes.
Ouais.
Ça, c'est avant qu'Alpine switch pour Mercedes aussi.
Fred,
tout est dans tout.
Le move à Aston n'est pas impossible, je pense, pour Max.
Mais ce serait surprenant qu'il soit top 2 à Aston Martin.
Oui, mais c'est pas impossible.
C'est pas ça, le
point aussi de Newey, là, que ça va être une guerre de moteur, est pas, ça n'est un bon parce que les règles vont changer, ben, ont changé au niveau aérodynamique, puis on développe là-dessus. Puis, en tout cas, quand j'étais au UK puis qu'on voyait un peu les ébauches de ces premières règles-là, ça semblait beaucoup plus restrictif que les règles qui sont déjà en ce moment. Fait que point de vue aérodynamique, est-ce qu'il va y avoir des gros trucs qui vont faire la différence entre les écuries? Dur à dire. Puis après ça, tu as des nouvelles règles moteurs qui arrivent en même temps. Ça va peut-être beaucoup plus être ça, la guerre technologique qu'il va y avoir après ça en 2026.
Ça serait quand même surprenant que ce soit
est-ce que Max,
Red Bull Powertrain qui est le meilleur moteur. Là.
Est-ce que Max veut rester dans une écurie de pointe et qu'il finisse sa carrière avec un gars qu'on dit c'est un champion qui a gagné quand il avait la meilleure voiture ou veut cimenter son héritage à la Michael Schumacher,
je comprends.
À la Lewis Hamilton en disant il est allé remonter une écurie. Non, mais c'est vrai.
Mais t'as raison, lui, tout ce qu'il veut, c'est le meilleur char.
Il est déjà quatre fois champion. Là.
Il veut le meilleur char.
Ce qui reste à prouver, c'est ça.
Ouais, c'est
vrai. Je comprends, mais je pense que la priorité, c'est je veux le meilleur char. Point.
Ouais, on va avoir le meilleur char, tu peux bâtir le meilleur char.
À moins qu'il mûrisse,
comme
qu'il
Lewis a fait avec, comme Lewis a fait avec Mercedes. Comme... Ça a été long, le Schumacher a gagné un Ferrari. Quand il m'a gagné, par exemple, il était un pilier là-dedans dans le développement de la voiture. Ça a été la même chose pour Lewis sur Mercedes. Autant de hate qu'il reçoit, ça a été ça. Il n'a pas gagné.
Il avait failli, par exemple. Ça,
il a passé proche, mais il n'a pas gagné. Mais il l'a quand même. C'est pourquoi Vettel a autant de respect des... Je ne sais pas que Max va toujours avoir du respect. C'est pas ce que je dis. Mais pour passer à la catégorie greatest of all time...
Gagner avec les écuries, c'est malade.
Ouais. C'est... Bref. D'ailleurs, avez-vous regardé la série Senna?
Non, bien sûr.
Ouais, c'est bon.
Moi, je l'ai regardé. J'ai braillé toutes les larmes de mon corps. Je l'ai regardé. C'est extrêmement touchant. C'est incroyable. Bref, allez regarder ça aussi. Avant Drive to Survive. JP Bellan.
JP!
Pose la meilleure question que je qualifierais d'excellente bonne question.
Classique.
Quelles sont vos prédictions pour le World Driver Championship et le World Constructor Championship en 2025? Tu t'es déjà mouillé pour le championnat des pilotes.
Mais moi, je pense que c'est Lando et McLaren. Tantôt, j'ai
les
dit
deux.
Audacieuse.
Okay, les
quand,
deux.
Quand tu m'as dit audacieuse, c'est je sors des nues un peu, je suis bold, puis je dis Charles avec Ferrari. Mais moi, je pense que McLaren va juste
continuer. Mais c'est-tu si bold de dire Charles avec Ferrari?
Pas si bold, mais c'est audacieux quand même.
Ouais, un petit peu plus.
Moi, je pense que ça va être McLaren et Lando. C'est ça mon call.
OK.
Parce que Max n'en gagnera pas 7 sur 10 en partant.
Non.
Et voilà, c'est tout.
Merci. Moi, je pense à un repeat de l'an passé exact.
What?
Ouais.
Max?
Max, champion du monde encore avec McLaren qui va gagner le championnat des constructeurs.
Merci ton opinion, ça sera
sick. Wow, ça serait incroyable. Fait que toi, tu crois encore, Max, même s'il y a top 2, 3, 4 des voitures.
Tu dis qu'il l'an passé qu'il a gagné les 7 premières, là, mais si tu prends la deuxième moitié de la saison, il l'a gagné sur Lando aussi l'an passé. Là.
En termes de points?
En termes de points.
Je n'étais pas attardé à cette statistique.
Fait que ça peut être encore plus serré, mais c'est pas impossible. J'ai confiance en mes anciens collègues aussi.
Oh, ancien collègue!
Ma prédiction était que Ferrari allait gagner le championnat des constructeurs l'an dernier. À partir de la mi-saison, ils sont passés proches. Alors, je vais y aller cette année, je crois, en le pouvoir de Fred Vasseur et ce line-up de pilotes-là. Donc, Ferrari va remporter le championnat des constructeurs.
Et le pilote?
Je pense que Charles Leclerc peut le faire cette année.
Oh, man, si t'allais dire Lewis, j'aurais flippé à la table.
Je pense que Charles Leclerc peut le faire cette année. Ça va être une solide course avec Max et Lando.
C'est là, là.
Et je pense que ça va jouer entre ces trois-là, pas pire. Il y a 8 ou 9 gars qui vont pouvoir gagner des courses cette année.
On va s'entendre pour une prédiction collective, c'est que ça va probablement être la meilleure des 5 dernières saisons, des 4 dernières saisons.
Mais là, battre la saison passée.
On pourrait voir un Abu Dhabi 2025, là. Oh, où ce qu'on a vu en fin de saison en 2007, quand Kimi Raikkonen a remporté son championnat devant Lewis et Fernando par un point, là. Ça pourrait être solide.
C'est incroyable.
En 2010, il y avait 5 pilotes dans le course aussi à Abu Dhabi.
Écoute, ça pourrait être ça cette année. Est-ce que G-Max peut faire le show en chess? Non, merci, on va passer à une autre
question. Ça?
C'est une question de Jean-Max. De Pag.
Pag, hey Pag!
On salue Pag. On salue également Alexis qui nous dit « Bonjour, je vous écoute sur Spotify depuis la France. Les voix me font rêver. Le Canada est une de mes destinations de rêve. Alexis, si tu viens au Canada, écris-nous. » Studio à Montréal, cela étant dit, c'est un plaisir de te rencontrer.
Viens en juillet ou pas.
Depuis peu, vous élisez le meilleur et le pire pilote du week-end et pourquoi pas nous faire des pronostics sur le pilote qui gagnera au prochain week-end. Alors, ça serait bon de mettre ça. Ouais. Donc, faire des prédictions pour... On va faire notre prédiction pour l'Australie rapidement.
Ouais.
Je vois pas parce que le screenshot d'Hugo est pas top ici. Alors... je vois que c'est marqué déplacer le message. Jamais sur Carlos Sainz. Pronostic pour le prochain Grand Prix. Alors, on va le faire pour toi, Alexis. Qui voyez-vous remporter le Grand Prix d'Australie? Et pourquoi c'est Oscar Piastri? Ça, c'est ma prédiction.
Piastri?
À la maison, pour commencer la saison. Ça mettrait le pavé dans la mort, toi, de la prochaine saison Drive to Survive.
Ben, écoute, moi, je pense que ça va être Lando Norris, parce que si tout se passe comme prévu, entre gros guillemets, et qu'il y a des bonnes qualifs, puis que la McLaren est top, comme tout le monde l'a dit, Lando, il y a une grosse année l'année passée, beaucoup d'expérience, plus de chien dans le nez, Lando Norris.
Ce ne sera pas un repeat du gagnant de l'an dernier.
Qui non. Était Carlos après une appendice.
Carlos Sainz, malheureusement.
Moi, j'irais pour un Charles Leclerc.
Ouais.
Ferrari devrait bien faire à Melbourne. Ça va prendre une grosse qualification, par contre, parce que c'est quand même un circuit où est-ce que c'est facile de garder du monde derrière soi.
Mm-hmm.
J'aime beaucoup la question de AGL, qui est notre dernière de la semaine, qui dit « Contre toute attente, qui aurait le plus de chances de finir sur le podium? » Alors, là, vous avez donné vos prédictions. On a donné nos prédictions pour le gagnant en fin de semaine en Australie. Qui complétera le podium?
Contre toute attente?
Bien, contre toute attente, là, mais il faut y aller peut-être surprenant ou quoi que ce soit.
Ouais, Liam Lawson sur le podium, ça pourrait peut-être être une bonne surprise. Là.
J'ai dit qu'il y a 9 gars qui pourraient gagner des courses, mais je pourrais ajouter ça. Selon moi, Liam Lawson va avoir de la difficulté.
Tu penses?
Nomme-moi un coéquipier de Max Verstappen qui a eu une bonne saison au complet.
La voiture est dure à conduire.
Dure à avoir du testing s'il s'adapte ou pas.
Et il semble qu'elle demeure difficile encore sur les vibreurs. Là.
Les vibreurs.
Ah, vibreurs. contre toute attente, Kimi Antonelli.
Ah, ça serait fou.
Ouais.
Imagine, Oscar Piastri l'emporte, Kimi Lewis sur le podium.
Non, pas Lewis, là.
Moi, si c'est ça, si c'est ça, je pense que, je sais pas, je fais le tour du bloc en courant.
Tour du bloc en courant?
Ouais, okay. ouais.
Hugo, tu le suivras en filmant. Un peu à la shape. Donne-moi 2 mois.
Ouais, moi, je reviens de vacances aussi. Là. J'espère que ça ne paraît pas trop à la caméra, mais chocolat est bon à Dubaï.
Fait que la table est mise.
Fais-tu ta prédiction?
Contre toute attente?
Ouais.
Contre toute attente, Kimi Antonelli?
Kimi Raikkonen, ce serait fou.
Ça serait contre toute attente.
Contre toute attente.
Non, Antonelli sur le podium, on s'attend pas à ça. C'est mon cas.
Ouais. Comme ça.
Voilà.
C'est bon.
C'est ça. Ça serait bien. Ça fait le tour. Un Italien. Et je m'en vais en Italie au mois de mai, les gars.
C'est vrai!
Voyons.
À quelle date?
Tu vas-tu à Maranello?
Je vais en manquer deux. Je vais manquer deux épingles. Je m'excuse.
T'en vas avec ta femme?
Et mon enfant, Romeo.
Romeo.
Sans va... sauce.
Mais à quelle date et où? Parce que t'as un Grand Prix en Italie, hein?
Ouais, non, on s'en va et le 13 et on revient le 29. 3 jours à Rome. Ça va être absolument épique. Après ça, on s'en va dans les Pouilles. On a loué une petite maison centrale. Puis on va faire plein de beaux petits villages dans le talon de la botte, là.
Merci pour cette chronique voyage.
Bien sûr.
Les gars, on reprend ça la semaine prochaine.
Oui, certainement.
Bon avec début de saison à toutes et à tous. Mm. Enfin, on est là. Dans quelques jours seulement, les rouges s'éteignent et on roulera sur le magnifique circuit d'Albert Park en Australie. La beauté, c'est que Fred et moi, on est ici à Montréal. L'année passée, les deux, on était là-bas sans même se connaître et le savoir. Oh!
Avec sa petite gourde.
Et je me souviens des stunts qu'on faisait, notamment les cafés locaux là-bas avec Valtteri Bottas. Il y avait le Bottas Espresso. Le Mullet Espresso qu'on faisait. C'était... Oh mon Dieu, que je m'ennuie de l'Australie. Quel pays
je suis content de commencer en Australie.
Ouais, c'est bien.
Bahreïn, ça m'excite
comme
un peu
dans
moins.
Le temps.
Ouais.
Comme dans le temps.
Et, sans Daniel, par contre, Ricard, Aurier-Guillard.
Ouais, ça, c'est le moment que je n'ai pas encore frappé dans Drive to Survive qui risque de m'émouvoir au possible encore. So, this is it. This is it.
Il nous reste 5 épisodes.
C'est-tu quoi? This is it pour l'épisode cette semaine de L'Épingle. Merci à tout le monde d'être là encore une fois. Et merci à nos nombreux supporters. Une petite inside joke ici pour finir. On se reprend la semaine prochaine. Post-Grand Prix d'Australie, pré-Grand Prix de Chine. On est là, la saison est partie. Let's go tout le monde. Salut.
Ciao.
Bonne semaine.